qu'il est bon pour nous d'être ensemble ce matin. Alors c'est vrai, je le dis souvent, mais parce que c'est vrai. Et ce n'est pas l'auto-persuasion, je suis content de vous voir ce matin. Alors même s'il y a une charge sur mes épaules un peu particulière ce matin, mais je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Et il a une parole, c'est extraordinaire, mais c'est extraordinaire, je ne sais pas comment il fait. Mais une seule source, ma modeste bouche, est capable d'être le véhicule d'une parole pour chacun d'entre vous. Et chacun d'entre nous, parce que je me parle aussi à moi. C'est un miracle à chaque réunion, je crois, que Dieu puisse s'adresser à chacun d'entre nous en particulier et s'entendre dire « Toi, mon enfant, ce matin, ça, c'est pour toi. Je t'encourage, je te tire l'oreille. Dieu est tellement vigilant et bon pour nous. Amen. » Nous sommes le week-end de Pâques. Et traditionnellement, nous fêtons la mort et la résurrection de Jésus. Il aurait été aisé de choisir ce thème ce matin, mais quelque chose d'autre est né dans mon cœur, mais en relation aussi avec Pâques. On va lire ce premier verset dans Romains, chapitre 12, le premier verset du chapitre. Oh, un texte qu'on connaît tous. Il nous est dit, je vous exhorte donc, frères et sœurs, hein, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À offrir vos corps. Alors, on est bien d'accord, on reste vivant, hein. On reste vivant. Ce n'est pas des actes de terrorisme qu'on veut faire. On ne veut pas se mettre une ceinture d'explosifs et faire n'importe quoi. Non, non. On reste vivant. Offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Il ne faut pas se tromper de cible. Hein. Il y en a qui détournent tout et n'importe quoi pour... on est clair. Sacrifice vivant. Offrir nos corps. Ce matin, j'aimerais évoquer avec vous ce qu'on appelle le don de soi. Ce matin, dans quelques prières, il y a eu ceci qui a été évoqué. À Gethsémané, Jésus a fait le choix de boire la coupe jusqu'au bout. Il a fait le choix. Il s'est donné. Il s'est donné. Il y a des fois, on est obligé de se donner. Il y a des dons qui sont difficiles. Parce que les circonstances de la vie nous obligent à nous abandonner, à renoncer à nous-mêmes. Ça peut être le cas d'un conjoint malade, on est obligé d'en prendre soin. Maintenant, avec les progrès de la médecine, on meurt de moins en moins jeune, mais il y a des pathologies qui arrivent, et des Alzheimer et compagnie, et pour le conjoint, c'est toujours très difficile. Il peut y avoir des accidents de vie. Je pense à certains au milieu de nous qui font que les circonstances, on est obligé de s'occuper de quelqu'un qui nous est cher. On renonce à soi pour des circonstances particulières ou lors de circonstances particulières. Mais ce que j'aimerais évoquer au travers de ces circonstances particulières de Pâques, c'est le don de soi, mais qui est finalement un acte volontaire aussi. Pâques, vous savez que Pâques a deux orthographes en France, c'est Pâques avec S et sans S. Ce n'est pas une faute d'orthographe. Hein. Le Pâques sans S évoque la Pâques juive, cette fête que Jésus fêtait avec ses disciples. Lorsque on parle de la Pâques, lorsque Jésus est mort, c'était la période de Pâques, fête juive. Et vous savez ce que rappelait cette fête juive ? L'Égypte, oui, j'entends l'Égypte. La sortie d'Égypte, et plus particulièrement, le passage de la mer Rouge, parce que Pâques veut dire passage. En hébreu, ça veut dire Tessa. C'est Tessa, c'est le passage, on passe la mer Rouge. C'était une période très particulière pour ce peuple. On est d'accord. Ils étaient esclaves, et puis d'un seul coup, au bout de 430 ans, ils sortent d'Égypte. Incroyable. Pessa, passage. Mais en français, on a rajouté un S aux alentours du XVIe siècle. Parce qu'il y avait une confusion des genres. Les Juifs, la Pâque, mais nous, chrétiens, on ne fête plus le passage, la sortie de l'Égypte, mais il y a comme la fête d'un autre passage. Celui de Jésus qui a donné sa vie et il est ressuscité. Il y a un passage comme la mort, un ensevelissement. La mort a été vaincue parce que Jésus a donné sa vie à la croix. Et pour nous, chrétiens, il y a ce passage que nous fêtons, cette mort de Christ et cette résurrection. Christ est la vie et nous sommes vivants en lui, au travers de lui. Il nous a communiqué sa vie. Mais dans ces deux textes, dans ces deux histoires, dans ces deux fêtes, il y a un point commun. C'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a renoncé à lui-même. Dans le premier passage, dans la première histoire, Pâques sans S, je vais évoquer quelqu'un qu'on connaît bien, c'est Moïse. Cet homme avait fui l'Égypte et il s'était installé. Il avait une belle vie. Il nous est dit dans Exode au chapitre 3, je vous laisserai le lire à la maison, Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père. Ça veut dire qu'il était marié. On est d'accord. Hein ? Il était marié, il avait une famille, il était installé, la vie était belle pour lui, il avait des troupeaux, tout va bien. Jusqu'au moment où il fait une rencontre étrange, hein, quelque chose de vraiment exceptionnel. Il y a un buisson qu'on a appelé ardent, il y avait un feu, mais il ne brûlait pas. Un feu, mais il ne se consumait pas. Le rêve de tous ceux qui ont une cheminée. Hein ? On met une bûche, on l'allume, et il y en a pour l'hiver. Génial ! Moïse, ça l'a interpellé quand même. Mais voici que c'était une rencontre qui a changé sa vie. L'Éternel était là. L'Éternel lui dit, « Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai eu l'impression, j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Voici une mission que Dieu a donnée à qui ? À Moïse. Moïse, il n'était pas au Pôle emploi. Hein. Il n'attendait rien. Hein. Il ne demandait rien à personne. Il avait à peu près 80 ans, c'est bon, la vie est belle, la retraite est bonne. Ouh. Maintenant, je vais me reposer. Terminé. Ah non. Seigneur, il a dit coucou. Viens, je vais t'envoyer. Moïse a dit à Dieu, ça nous a été rappelé la semaine dernière, qui suis-je ? Qui suis-je ? Pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Qui suis-je ? A dit Moïse. Il avait certainement oublié toutes les habitudes et compagnie qu'il connaissait lorsqu'il était au palais de Pharaon. Hein. Les protocoles sanitaires, les serviteurs qui viennent. Enfin bon, il avait certainement tout oublié, tout ça. Il était avec des animaux. Qui suis-je ? Dieu lui dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Je serai avec toi. Quand Dieu appelle, il ne laisse pas seul. Quand Dieu missionne, il ne nous laisse pas seul. Il sera avec nous. Et ce qui fait toute la différence, c'est qu'il est avec nous. Un jour, un pasteur disait qu'il valait zéro. Sa valeur à lui, zéro. On ne vaut rien. Et peut-être au milieu de nous, ce matin, il y en a qui disent « Je ne vaux rien. Je ne vaux rien. » C'est peut-être le regard que tu as sur toi. Et quelque part, on a plus ou moins raison quand même. Mais ce qui fait la valeur du zéro, c'est ce qu'on va y mettre à côté. Et si on y met un 1, et ben 0 fait que ça fait 10. Et 0 a pris de la valeur à côté du 1. 1, Jésus, Dieu. Dieu qui se met à côté de nous, je serai avec toi. Et de nul que nous sommes, et ben nous commençons à avoir de la valeur grâce à celui qui est avec nous. Amen. Je serai avec toi. Et on connaît tous l'histoire de Moïse. Lorsqu'il s'est présenté de Pharaon, Pharaon a rigolé, entre guillemets, il n'a pas pris au sérieux. Le peuple, il voyait une sortie, mais finalement, Pharaon a durci les conditions d'exploitation des Hébreux. Et le peuple hébreu s'est rebellé aussi contre Moïse. Mais pourquoi tu es venu maintenant? C'est encore plus dur qu'avant. Pourquoi? Mais voilà que Dieu était avec Moïse. Moïse n'a pas perdu le cap. Et après la 10e plaie, ils sont sortis. Et tout ça pourquoi? Parce que lorsque Moïse a été appelé par Dieu, il a renoncé à son confort, à sa famille, à son troupeau. Il a accepté de faire voyage jusqu'en Égypte et subir tellement de choses qu'il aurait pu le faire renoncer à la mission, mais non, il a renoncé à lui pour servir le Dieu vivant et vrai. Il a renoncé, il s'est donné, c'est le don de soi. Quand on se donne à Dieu, quand on le sert, au travers de ce que je viens d'évoquer sur Moïse, on se rend compte que la vie n'est pas forcément facile. La vie n'est pas forcément la plus simple. La vie est même parfois plus compliquée. Hein. Moïse, il attendait la retraite. Hein. On est d'accord. Hein. On voit les jeunes. C'est plus de mon âge, tout ça. Je suis bon à rien. Regarde l'arthrose. Regarde tout. D'ailleurs, il a négocié un petit peu avec Dieu. Hein. J'ai la langue embarrassée, compagnie. On essaie de trouver des solutions pour Dieu quand il nous appelle. Pas moi, j'utilise quelqu'un d'autre. C'est vrai. Hein. Mais non, il est parti. Il a obéi à Dieu. Sa vie à Moïse a été non pas un long fleuve tranquille, mais malgré tout, quelles expériences il a vécues. Quel instrument entre les mains de Dieu. Un instrument puissant. Quelle patience. Deuxième exemple du renoncement à soi, du don de soi. J'ai pensé à... Vous vous souvenez de cette femme qui un jour a été prise dans le temple en train de prier. Mais elle ne faisait que bouger les lèvres, il n'y avait pas de son qui sortait de sa bouche. Et le sacrificateur qui était là la prenait pour saoule, ivre. Je parle de Anne. Anne est cette femme qui vivait une vie extraordinaire. Elle était heureuse, cette femme. Non ? Ah bon ? Pourquoi elle était malheureuse ? Bah c'est génial quand il n'y a pas d'enfants. Ils ne sont pas dans nos pattes et compagnie, non ? Et non, elle était malheureuse. Elle était malheureuse, cette femme, parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter pour son mari Elkana. Pire que ça, dans le foyer, il y avait une deuxième épouse. Et elle disait, ma pauvre Anne, c'est bien triste pour toi. Allez, on va se réjouir ensemble quand même. Non. Elle lui mettait une pression. Elle l'a harcelée, comme on dirait aujourd'hui. Elle l'a maltraitée. Elle se moquait d'elle. Croyez-vous que Anne était heureuse? Aujourd'hui, on apprend même que des ados se suicident pour pas grand-chose. Cette femme, elle subissait une oppression dans son quotidien terrible. Et là, elle était dans le temple, et elle répandait son cœur encore devant Dieu. Et l'homme de Dieu, Élie, le sacrificateur, dans toute sa compassion, la prenait pour saoule. terrible. Personne sur qui s'appuyer. Si son mari, qui la chérissait quand même. Mais voici que cette femme a vu sa prière exaucée. Elle a enfanté un fils, prénommé Samuel. Quelle joie immense pour cette femme! Vous imaginez, après tant d'années d'oppression, d'être considérée comme une moins que rien, peut-être même maudite, ça y est, elle enfante. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait cette promesse. Dès que cet enfant sera sevré, elle allait le prêter à Dieu. Moi, il y a quelque chose qui me choque, quelque part. Pendant tant d'années, tu as souffert parce que tu n'arrivais pas à avoir d'enfant, et maintenant que tu as un enfant, tu t'en sépares. Oh! Ça ne vous choque pas? Vous qui êtes maman, vous auriez donné votre enfant comme ça, décevré, là, pas très âgé, hein, quelques années. Et on s'en sépare. Pour le remettre dans les mains de quelqu'un dont la probité est somme toute relative. Hein, relisez l'histoire d'Élie à ce moment-là, le sacrificateur, hein, pas le prophète. Il avait des fils un peu étranges quand même. Hein, et il laissait faire. Donc, remettre son enfant dans quelqu'un... Enfin, je sais pas, moi, j'aurais pas confié ma fille. Hein, ni mon fils. Et pourtant, cette femme qui a tant pleuré va remettre son enfant à cet homme de Dieu. Pour moi, c'est... Elle renonce encore à elle. Un sacré renoncement. Une telle femme, après tant de souffrances, qui donne à Dieu finalement ce qu'elle a de plus cher, son fils. Et quand on voit l'homme de Dieu que Samuel est devenu, merci Seigneur pour de telles femmes qui ont su discerner les conséquences de tels actes, le renoncement à soi. Je ne suis pas certain d'être capable de faire ce qu'elle a fait. On trouverait d'autres exemples dans l'Ancien Testament, mais j'aimerais évoquer d'autres exemples de renoncement, mais cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Les premières personnes que l'on voit qui ont renoncé à elles-mêmes, ce sont les disciples. Là, Jésus, il marche le long de la mer de Galilée et il voit deux pêcheurs. Allez, venez avec moi. On se connaît? Si je passe à côté de vous alors que vous êtes en train de travailler, allez, laisse tout tomber, viens avec moi, on va faire autre chose. David, ça va? Laisse-moi terminer. Laisse-moi régler mes affaires avec mon patron et puis on va voir après. Ça semble sage. Mais non, là, venez avec moi. Et là, que font les disciples? Ils abandonnent tout, ils laissent leur filet, ils s'en vont, ils suivent Jésus. Étrange comme situation. On est patron d'une affaire et là, on lâche tout pour suivre Jésus. Ils ne le connaissaient pas. Hein. C'était le début du ministère de Jésus. Qui est-il? Un inconnu. Et ses disciples suivent. Ils abandonnent tout. Et pas qu'un ou deux, hein, 12 à faire cette opération. Ils ont renoncé à leur vie pour suivre cet homme qui s'appelle Jésus. Une vie prospère. Je sais pas, quand on est artisan, pêcheur, on remplit les filets, on vend son poisson, et puis on est content, on vend, on a des biens, on a la belle villa, regarde la piscine, regarde la maison, regarde la belle voiture que j'ai, regarde mes comptes en banque, le livret A, il est plein, et celui de ma femme aussi, les enfants aussi, tout va bien, quoi. Ou pas, d'ailleurs. Et on suit Jésus. On renonce à soi. Mais, Seigneur, tous les efforts que j'ai faits pour en arriver là, pourquoi j'ai tout abandonné? Mais Jésus les a appelés. Comme le Seigneur peut t'appeler ce matin. ou hier, ou il y a longtemps. Il te dit, viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Ouais, Seigneur, mais... Suis-moi. Ces personnes n'étaient pas oisives, elles étaient au travail quand Jésus les a appelées. Des fois, on aimerait bien que le Seigneur nous appelle. On est au chômage, là, on n'a rien à faire. Et puis, Seigneur, là, ce serait peut-être bien que ce soit le moment que tu m'appelles, que tu me dises ce qu'il faut faire. Des fois, il y a des décisions difficiles à prendre. Il faut démissionner. Et on ne sait pas où on va. On va quitter un bon salaire, une bonne mutuelle, de belles conditions financières, la voiture de fonction. On va peut-être même être obligé de quitter son appartement, sa maison, pour adapter ses moyens aux nouvelles finances, pour obéir à Dieu. Autre exemple, Paul, cet homme qui respirait la haine, enfin Saul de Tarse à l'époque, il respirait la haine, c'était un persécuteur. Il voulait détruire l'église naissante. Et il réussissait, hein. Il était témoin de meurtre, utilisons le terme. Il avait même des lettres, hein, qui lui donnaient autorité. Quel homme puissant! Il était fier sur son cheval avec la cuirasse bien cirée là et compagnie. Il était fier. Et tout le monde en avait peur. Un jour, sur la route de Damas, il se trouve arrêté. Jésus lui dit, que je retrouve le texte, il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. » Vous trouvez ça dans Acte 9. Saul de Tarse s'est trouvé arrêté. Il a entendu la voix de Dieu et il a accepté l'appel. Que veux-tu que je fasse ? Alors qu'il avait toute la gloire, tout le monde était impressionné peut-être par sa sagesse, parce qu'il était sage, Saul de Tarse. Il était érudit, il était puissant, et il va accepter de quitter tout ça, toute cette renommée, pour suivre la volonté de celui qu'il persécutait, Jésus. Donc il va abandonner tout ça. Pour faire quoi ? Se faire accepter par ceux qui persécutent ? Sacré dilemme, non ? Il y a quelqu'un qui veut du mal à l'église de Martigues. Et il nous persécute. Si bien que quand il passe en bas, là, tout le monde fuit dans la colline parce qu'on tient notre vie et on n'est pas non plus des suicidaires. Et là, attention, il arrive. Mais non, il y a un frère à côté de lui, c'est bizarre. Est-ce que vous êtes prêt à faire confiance à quelqu'un comme ça qui vous a persécuté pendant tant d'années ? Pas sûr, hein ? Moi, j'aurais du mal. Pourtant, il a fini par se faire accepter. Dieu a conduit les choses. Mais quand il est tombé de son cheval, il devait y avoir quelques pensées étranges dans sa tête quand même. Enfin, c'est ce que j'imagine. La parole ne nous en parle pas, mais il est intelligent et Dieu nous a doté d'une intelligence et on a nos raisonnements. Et il ne devait pas être très à l'aise avec tout ça. Pourtant, que veux-tu que je fasse ? Et nous qui connaissons la suite et la fin de la vie de Paul, on sait que heureusement qu'il a dit oui à Jésus, hein. Parce que quel homme, si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu de tels hommes qui, à ce moment-là, ont renoncé à leur vie pour que le message de l'Évangile nous parvienne à nous et que nous puissions connaître qui est Jésus et être sauvés. Merci Seigneur pour de tels hommes, de telles femmes. Et quand je préparais, je me faisais cette réflexion. Y a-t-il dans la parole de Dieu des personnes qui ont renoncé aussi à elles-mêmes et dont on ne connaît rien? Parce que là, je vous ai cité quelques exemples de personnes qui ont vu leur vie, après avoir renoncé à elles-mêmes, être... Oui, on a des témoignages qui font que cette vie a été utile. On voit des choses extraordinaires. Moïse, il a vécu des choses extraordinaires au service de Dieu. Samuel, on connaît tout ce qu'il a vécu aussi. Lorsqu'il a grandi et qu'il a été oindre les rois et compagnie, il a vécu des choses extraordinaires. Les disciples ont vécu des choses extraordinaires. Paul aussi. Mais est-ce que lorsqu'on renonce à soi, on vit que des choses extraordinaires? Y aurait-il pas quelque chose dans la parole, quelqu'un dans la parole de Dieu qui aurait renoncé à elle-même et on ne sait pas ce qui s'est passé après? Et j'ai pensé à ce passage dans Luc 21, on pourrait l'afficher s'il te plaît Jonathan, Luc 21 au chapitre 21 au verset 1er. Il nous est parlé de ceci. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait deux petites pièces. Deux petites pièces. Un centime d'euro. Boum, boum. Il n'y a pas plus petit. Et Jésus dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est pas renoncer à soi. Quel renoncement. C'est pas se mettre sur l'autel. C'est pas se donner pleinement. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Attention, je ne vous demande pas de tout mettre dans le tronc. Attention. Mais elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Les autres ont donné du superflu. Elle était peut-être même méprisée. Oh, elle n'a rien donné, elle. T'as vu ce qu'elle a donné? Mais ce que Dieu remarque, ce n'est pas le don. La valeur du don humaine, c'est la manière dont on donne. Elle a donné son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Les valeurs de Dieu ne sont pas les mêmes. Il y a quelqu'un qui parlait de valeurs ce matin dans sa prière. Les valeurs de Dieu ne sont pas les mêmes que les nôtres. Il nous est dit que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Tiens, c'était Samuel. Mais l'Éternel regarde au cœur. Vous retrouverez le passage, hein, c'est Samuel, lorsque les frères de David passent devant lui avant que David ne soit oint comme roi. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Et ce matin, il est en train de regarder nos cœurs. Il regarde nos cœurs. Et il voit quoi? Du superflu ou du nécessaire? Comment on est venu ce matin? Comment on est venu ce matin dans la présence de Dieu? En préparant ce texte, et puis ce matin, à la première prédication, j'étais vraiment travaillé pour moi-même. Pour moi-même. Parce que parfois, on rentre dans des routines, dans des habitudes, dans des fonctionnements qui sont parfois étranges. Je parlais de relations commerciales avec Dieu. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Une relation commerciale avec Dieu. Ah, Seigneur, t'as vu. Non seulement je viens le dimanche, au premier culte et au deuxième, je viens le jeudi après-midi, je suis fidèle sur WhatsApp. Ouais! Et c'est bien, faites-le. Il n'y a pas de problème avec ça. Il faut le faire. Il faut être présent. Il faut être dans la communion fraternelle. Qu'il est bon d'entendre la prière d'un frère, d'une sœur, comme elle-même. Le français est maladroit et on s'en moque. C'est pas grave. C'est pas le plus important. C'est le cœur qui parle. Et quand une sœur, un frère parle Prie à Dieu avec tout son cœur combien nous sommes bénis. C'est pour ça que je vous exhorte à ouvrir la bouche. Le dimanche matin, le jeudi, les moments de prière, prier un simple merci. Entendre un merci, mais simplement ça qui vient du cœur. Combien c'est bénissant pour toute l'Église. Je vous encourage à le faire. Du coup, je voulais dire quoi ? Je me suis perdu. Toujours est-il qu'il est bon de venir... Ah, merci pour le commerce. Parfois, on vient à l'Église comme ça et on y vient avec tout cœur. Tout son cœur. Et puis on s'habitue, on rentre dans une routine. Et puis on dit, Seigneur, tu vois, hein, je suis fidèle. Et puis t'as vu, hein, avant je passais juste 5 minutes en prenant mon petit café, je lisais le feuillet, je priais, et puis c'est tout ce que je faisais. Maintenant, je suis à une demi-heure, et puis c'est dans mon bureau, et puis je suis à genoux, hein, c'est bien. Hein. Tu pourrais pas me dire un petit peu ? Tu pourrais pas m'accorder un petit peu ? Un peu plus. La tranquillité. T'as vu le voisin, il est pénible. Tu pourrais pas me... Parce que t'as vu tout ce que je fais. Relation de commerce. Mais là, on n'est plus dans le renoncement. On n'est plus dans le don de soi. On est en train de négocier quelque chose avec Dieu parce que nous, on fait quelque chose. C'est un danger. Cette femme a tout donné. 2 petites pièces. Il lui restait que ça. Ça me rappelle aussi cette veuve. Il lui restait juste un peu de farine, un peu d'huile, et puis elle a dû le donner à cet homme de Dieu. Elle n'avait plus que ça aussi. Elle renonce à elle, à son fils. Mais quelle bénédiction. Pour cette veuve, avec son fils, on a vu les conséquences. Mais pour cette femme qui a mis les deux pièces dans l'urne, on ne sait pas ce qui s'est passé derrière. Quand on renonce à soi, on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Mais vous savez quoi ? C'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Pourquoi ? Parce que lorsque on se donne pleinement, il n'y a plus qu'un seul pilote dans l'avion. C'est Jésus. Et nous savons que Jésus, quand il est aux commandes, certes, la vie ne sera pas un long fleuve tranquille, comme je disais tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on va vivre des belles choses qui ne seront pas forcément extraordinaires aux yeux des hommes, mais lorsqu'on marche avec Jésus, on ne veut pas 0, on vaut 10. Ça ne vous fait pas envie ? Il y a un prix à payer, c'est vrai, et le prix que Jésus a payé, et j'ai terminé par cet exemple de Jésus qui a donné sa vie pour nous, c'est le renoncement suprême. Parce que nous, on n'est pas bon, hein, à la base. On est même méchant, mauvais, hein, dit la parole de Dieu. Hein. Mais à combien plus forte raison ? Le Père qui est dans le ciel veut nous bénir, prendre soin de nous. Et là, Jésus, il a répondu à l'appel de Dieu. Quand Dieu a dit, qui enverrai-je ? Il a dit, me voici, envoie-moi. Je veux être celui par lequel ces personnes, ces créatures soient sauvées. Jésus, il avait tout dans le ciel. La gloire, les richesses, la santé, pas besoin de sécurité sociale, de mutuelle et compagnie, il y avait tout. Tout allait bien là-haut. Il régnait. Et il acceptait de se dépouiller, nous dit la parole de Dieu. Il a tout abandonné. Il aurait pu venir en gloire sur cette terre. Non, il est venu comme un petit enfant. Dans la plus belle des maternités, une étable. Dès le début, c'était mal, ça commençait mal pour Jésus, à vue humaine. Il a grandi chez les notables du coin. Non, charpentier. Les mains de Jésus devaient être dans un état. Parce que quand on travaille le bois, généralement, les mains ne sont pas aussi belles que les miennes. Hein. Il y a des échards, des compagnies. Les mains de Jésus, elles devaient être dans un état. Parce qu'il travaillait avec son père. Hein. Il était charpentier. Il est venu sur cette terre avec rien. Il a quitté cette terre comme un brigand, en donnant sa vie, lui qui n'avait jamais péché. Jamais péché. Qui n'a jamais péché au milieu de nous? Personne? Tout le monde a péché? Ah, je suis déçu. Ah, je suis déçu. Je croyais qu'il y avait des saints ici. Non, on a tous péché. Tous péché. Qui n'a jamais prononcé un mensonge? Ne serait-ce que ça. Un seul dans sa vie, c'est le seul. Ça y est, on est pécheur. Tout le monde a péché au moins une fois. Mais Jésus n'a jamais, mais jamais péché. Incroyable. Et on se souvient dans ce jardin de Gethsémané combien la lutte a été difficile. Parce qu'il allait affronter des choses qu'il ne méritait pas. La condamnation qui est tombée sur lui est la plus grande injustice que la terre ait connue. Qu'on condamne un criminel, c'est normal. Mais qu'on condamne un juste. On voit souvent, enfin régulièrement, pardon, heureusement pas trop souvent, mais régulièrement, des scandales comme ça. Après 30 ans de prison, il a été innocenté parce que ceci, cela, le test ADN, aujourd'hui, la technologie fait que... Et là, on essaye de pas trop en parler parce que la justice en prend un coup. Mais là, c'est la plus grande des injustices. Jésus qui donne sa vie. Et pourquoi il a renoncé à tout ce qu'il avait à lui par amour pour toi, pour toi, pour toi, pour moi. Et en donnant sa vie, il te dit, regarde, je fais ça pour toi. Il renonce à sa vie par amour pour nous. Alors que nous étions ennemis. Il aime. Il est amour. Il est amour. Jésus, qui en donnant sa vie, en prenant sur lui nos péchés, il en était question aussi dans une prière ce matin, il s'est revêtu de nos péchés, il s'est fait péché pour nous, il a connu la mort pour nous, il a vaincu la mort pour nous. Pourquoi ? Pour que le salut soit gratuit pour nous. C'est lui qui a payé. Il y a eu un prix payé. Il n'y a rien de gratuit, finalement. Il y a eu un prix payé. Mais pour nous, le prix est payé. Il n'y a plus qu'à prendre. Et ce matin, Jésus, il appelle encore au salut. Peut-être au milieu de nous, il y en a qui ne sont pas encore sauvés, qui n'ont pas encore donné leur vie, mis leur vie entre les mains de Dieu. Et là, il frappe à la porte du cœur et il dit, « Laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer. Tout est payé. Tu n'as plus qu'à te servir. Ouvre ton cœur. » Laisse-moi entrer et là, je vais faire des choses extraordinaires dans ta vie. Renonce à tes projets, mais t'inquiète pas, je serai avec toi. Je serai avec toi. T'inquiète pas. Oui, d'accord, il y aura peut-être des difficultés, mais ça, c'est pas grave. Parce que je suis avec toi. Fais-moi confiance. Dans les premiers versets que nous avons lus, il était question du sacrifice du corps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le corps, c'est ce qu'il y a de plus précieux quand même. Quand on a un corps qui est mal en point, on se rend bien vite compte combien il est difficile de vivre. Quand on a le corps qui est défaillant, il est compliqué pour nous d'être bien dans la société qui nous entoure. Paul, il nous dit de remettre nos corps, ce véhicule, cette tente, qui nous sert tant et qui nous fait tellement souffrir. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, nous dit Jésus. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Marc 8, 35. On a tout à gagner à donner notre vie à Jésus. Il y a cette femme qui a dit un jour, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Qui sait ? C'est Ruth. C'est Ruth qui a décidé de suivre Naomi. Mais au début, il y avait aussi Orpa. Orpa. Et Orpa et Ruth ont décidé de suivre Naomi. Elles étaient toutes les trois veuves. Mais voici que Orpa a fait demi-tour à un moment donné. Elle avait bien commencé. Elle avait accepté de suivre Naomi. Et puis elle a fait demi-tour. Elle est retournée à ce qu'elle connaissait. Mais Ruth, elle a pris une autre décision. Elle a décidé de suivre Naomi. Notre engagement avec Dieu, il doit ressembler non pas à celui d'Orpa, mais à celui de Ruth. Alors, je vais en finir. Ce matin, il y a peut-être dans ce lieu des personnes qui ne sont pas pleinement entre les mains de Dieu. Vous savez qu'il est encore temps aujourd'hui de confier sa vie à Jésus. Il est encore temps aujourd'hui de régler ses affaires, parce que demain, on ne sait pas ce qui se passera. Savez-vous ce que vous allez faire demain ? Ah oui, vous avez des projets. D'accord. Dans tous les projets que vous avez faits jusqu'à aujourd'hui, ils ont tous réussi ? Ouais ? Non, hein ? Il y a tellement de projets qui sont tombés à l'eau, entre guillemets. Donc les projets que vous avez faits pour demain, on ne sait pas. Sera-t-on encore là demain ? Il vaut mieux régler ses affaires avec le Seigneur. Jésus a donné sa vie. S'il est mort, il est aussi ressuscité, nous dit la parole de Dieu. Et parce qu'il est ressuscité, nous pouvons lui faire pleinement confiance. Il a tout connu, il sait tout. Et si je confie ma vie, si je lui mets les rênes de ma vie entre ses mains, je ne serai pas déçu. Peut-être, comme Orpa, vous avez commencé à marcher. Et puis, d'un seul coup, la marche a été difficile, et puis les souvenirs de notre vie passée reviennent, et puis là, on est en train de dire « Ah ouais, mais c'était peut-être pas si mal avant quand même. » Et puis, on est en train de baisser les bras et se détourner de l'objectif. Il est encore temps de reprendre la bonne voie, la bonne route, la bonne marche. Peut-être qu'on est comme Ruth, et on continue le chemin. Mais il y a des épreuves et puis on commence à... C'est fatigant des fois. Mais je crois que pour nous ce matin, il y a une parole de vérité qui est le don de soi. Dieu le voit. Comme cette femme aux deux pites, Dieu a vu ce que personne n'a vu. Ce don était méprisé peut-être par les hommes. Deux centimes d'euros dans le tronc. Et le trésorier, il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Désolé, Emmanuel, c'est pas... Hein ? Tu les gardes ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? C'est pas notre problème. 5 pains, 2 poissons suffit à nourrir une foule de 5000 personnes. Dieu fait des choses extraordinaires avec ce qui est donné de bon cœur. Avec ce qui est donné de bon cœur. Ce qui est donné comme ça, d'une manière superficielle, ça n'intéresse pas Dieu. Ce qu'il veut, c'est ce qui est donné de bon cœur. Et ce matin, il nous dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie. Remets-toi sur l'autel si tu en es descendu. Reconsacre-toi. Que celui qui est saint se sanctifie encore, nous dit Jean dans l'Apocalypse. Nous avons tellement besoin de laisser l'Esprit de Dieu œuvrer dans nos vies. Alors nous allons prier. J'aimerais simplement qu'on ferme les yeux et qu'on laisse l'Esprit de Dieu travailler nos cœurs. Parce que c'est finalement quelque chose qui est entre Dieu et soi. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie avec Dieu. Est-ce que je sais vraiment où j'en suis moi avec Dieu ? Je suis peut-être tellement loin des objectifs que Dieu a fixés pour ma vie. Je sais. Il y a des choses dans lesquelles j'ai eu du mal à renoncer ou peut-être que je n'ai pas encore renoncé. L'Esprit de Dieu, je crois, ce matin, te pose cette question. Es-tu prêt à me confier ça, à me donner ceci ? Es-tu prêt à renoncer à ta vie ? Veux-tu donner ta vie ce matin à Jésus ? Veux-tu à nouveau te reconsacrer ? Il y a tellement à faire au service de Dieu. Des choses extraordinaires ou des choses que personne ne verra. mais Dieu les voit. Et ce matin, j'aimerais simplement nous interpeller à considérer notre vie là où on en est et dire « Jésus, me voici. Qui suis-je ? Qui suis-je pour que tu m'envoies ? Qui suis-je pour que tu te serves de moi ?» Mais ta réponse est « Je serai avec toi. Le Seigneur est avec toi. » Ce matin, si tu renonces à toi, c'est maintenant que tu vas prendre de la valeur. Parce que le Seigneur est avec toi.